souvenirs de famille. Jean Foyer de l'Académie des sciences morales et politiques est évoqué par son frère, Jacques Foyer.
S'il y avait un mot parmi beaucoup d'autres qui caractérise mon frère Jean Foyer, c'est celui de fidélité. Il a été pendant toute sa vie un homme profondément fidèle. Fidèle à sa famille, fidèle à sa région d'origine, fidèle à son épouse, fidèle à ses amis, fidèle à toutes ses convictions qu'il a défendues avec constance et fidélité aussi, bien sûr, au général de Gaulle et à Michel Debré et aussi, sur un autre registre, au cardinal Lustiger ou aux deux papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais cette fidélité, c'est à mon avis également la fidélité qu'il a su inspirer à tous ses amis. Il est, à ma connaissance, un des rares, peut-être le rare, le plus exceptionnel, avoir reçu successivement deux volumes de Mélange, un en 1997, si je ne me trompe, et intitulé « Jean Foyer, auteur et législateur », et le dernier, paru en 2010. C'est signe que ses amis ne l'ont pas oublié.
Jean Foyer est né le 27 avril 1921 à Contigné, dans le Maine-et-Loire, et il est décédé à Paris le 3 octobre 2008. Il avait été élu à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section Législation, droit public et jurisprudence le 5 mars 1984. Jean Foyer fut un éminent juriste, deux reprises, président de la Commission parlementaire des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, de l'Assemblée nationale. Il fut et il resta tout au long de sa vie un éminent professeur de droit, car il aimait enseigner. Et il fut aussi un homme politique, conseiller technique de plusieurs cabinets ministériels juste au moment de la Libération, député, maire, sénateur durant de nombreuses années. Il s'investissait beaucoup dans ses mandats locaux. Plusieurs fois membre du gouvernement en tant que garde des Sceaux, secrétaire d'État, puis ministre de la Coopération et de la Santé, avec la Ve République, Jean Foyer a connu un parcours d'homme d'État exceptionnel. Resté en sa compagnie, Jean Foyer est évoqué par son frère Jacques, lui-même juriste, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas Paris II, et on peut rappeler avec lui les origines familiales de Jean Foyer.
Jean Foyer est né le 27 avril 1921 en Anjou et au fond, son histoire personnelle, c'est aussi l'histoire d'une famille angevine profondément ancrée dans ses racines. Lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à la députation, dans les années 58-60, il avait écrit dans sa déclaration d'intention « Aucun de mes ancêtres n'est né à plus de 100 km d'Angers », ce qui était sans doute un peu exagéré, mais qui démontrait une implantation profonde. Le village de Contigné, qui est son lieu de naissance, est un petit village de 700 habitants, sans grand intérêt objectivement, qui est situé exactement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Haut-Anjou, à la frontière de la Sarthe et de la Mayenne. Et c'est un pays bocage, c'est un pays d'élevage où on rencontrait cette race de vaches connue sous le nom de Ménanjou, devenue aujourd'hui Rouge des Prés, mais à laquelle il était très attaché. Et il a été, pendant plus de 40 ans, maire de Contigné, c'est signe qu'il avait non seulement la confiance, mais toute l'amitié de ses concitoyens et de ses électeurs. Il est né le 27 avril 1921 et la date n'est pas sans importance. Il naît au lendemain même de la fin de la guerre de 1914-1918. Il naît d'un père qui avait fait la guerre, qui avait été blessé, dont un des frères était lui-même mort. Son grand-père, Auguste-Édouard Foyer, avait été maire d'une petite commune, cette fois à côté de Cholet, cette fois au sud du Maine-et-Loire, et qui s'appelle Molévrier. Et ce grand-père racontait que le drame de sa vie pendant la guerre de 14-18 avait été d'aller porter aux familles les avis de décès des hommes qui venaient d'être tués sur le front. C'est une période qui est marquante. Ma mère elle-même avait perdu son premier fiancé, qui était mort officier en 1916, et elle avait également perdu un frère qu'elle adorait, qui avait 20 ans, et son père. Et donc, quand il est arrivé, c'était certainement, ce que je n'ai pas connu, le bonheur dans la famille. D'autant plus qu'il s'est révélé un enfant extraordinairement précoce, d'une intelligence extrêmement vive, mais ça il l'a toujours eu toute sa vie, qui était capable de chanter à 18 mois une série de chansons enfantines qui manifestaient une mémoire qui a toujours été extraordinaire par la suite. D'ailleurs, il avait dit à mon père, il l'a dit dans ses mémoires, que lorsque celui-ci l'interrogeait, il lui avait dit « Au fond, je suis un vénard ». Et au fond, je suis un vénard, on se demande d'ailleurs où il avait trouvé ce terme, mais il est vrai que pendant sa vie, il a eu de la chance. Alors, il a eu de la chance, notamment dans sa carrière politique, parce qu'il n'a cherché aucun des postes qu'il a occupés. Ce qui me paraît quand même très révélateur. En revanche, lorsqu'on lui a proposé un poste, il s'en est montré particulièrement digne. Et l'exemple le plus net, c'est lorsque le général de Gaulle l'a quasiment obligé à devenir garde des Sceaux en 1962, et c'était à l'époque une tâche difficile. Il s'est révélé un garde des Sceaux tout à fait exceptionnel, à la fois sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain juridique, puisqu'il a contribué à réformer une grande partie du Code civil. Donc, il a eu de la chance. Alors, si je reviens à ses origines, donc, il naît dans ce petit village et mon père avait une théorie qu'il était inutile d'aller à l'école avant l'âge de 7 ans. Donc, il est resté à courir dans la campagne. Il avait deux sœurs un peu plus jeunes que lui. Et il en a été, je crois, très heureux. Puis, sur le coup de 7 ans, il est allé à l'école communale de Contigné où il y avait un instituteur qui s'appelait Monsieur Héon, qui était un remarquable instituteur de cette race des hussards noirs de la République, qui ne savait peut-être pas énormément de choses, mais qui les enseignait à la perfection. Et c'est sans doute là qu'il a appris l'orthographe qu'il a possédé par la suite avec une rare précision. Et puis, donc à la fin de ses études primaires, où il a d'ailleurs noué des connaissances avec un certain nombre de ses camarades qui étaient des enfants d'agriculteurs, d'artisans du pays, qu'il a continué à tutoyer pendant tout le reste de sa vie. Il est allé dans un collège à Angers, qui est le collège Montgazon, qui existe toujours, mais qui était à l'époque à la fois un collège et un petit séminaire. Donc un certain nombre de ses camarades sont devenus prêtres. Et c'est là qu'il a fait une scolarité tout à fait remarquable, c'est là qu'il a appris le latin. Et je voudrais au passage raconter une anecdote. Lorsque le général de Gaulle a visité le Maine-et-Loire, et mon frère était à l'époque garde des Sceaux, à cette occasion était présent un des anciens professeurs de Montgazon, de mon frère Jean, et mon frère l'a présenté au général de Gaulle en disant « Mon général, est-ce que je peux vous présenter le chanoine Jolivet ? C'est lui qui m'a appris le latin. » Et le général, de manière parfaitement courtoise et souriante, a dit « Monsieur le chanoine, je vous félicite, il en sait beaucoup. » Et effectivement, il a appris là le latin et il a continué par la suite à le pratiquer à la fois sur le plan juridique et sur le plan religieux. Et il avait en ce domaine une connaissance de la langue qui était pratiquement, je dirais, était presque bilingue en latin, ce qui est extraordinaire. Et là, je pourrais aussi vous raconter une autre petite anecdote qui traîne, que j'ai vue d'ailleurs dans les In Memoriam. Bon, il avait pris l'habitude, qui agaçait certains, de parler latin, notamment au Parlement, et quand il faisait des discours, et qu'on raconte qu'un soir, la nuit, on l'interroge en tant que ministre, et un des députés lui dit « Monsieur le ministre, il est tard dans la nuit, pourriez-vous me répondre en français, pas en latin ?» Et il a répondu « Mais tout à fait, monsieur le député, je ne vous parlerai pas en latin, mais je vous parlerai donc en grec. » Et il a commencé son intervention par une citation grecque. Bon, c'était aussi la marque de son humour, car il en avait beaucoup. Si je passe vite sur ses études, donc il passe brillamment son baccalauréat avec une anecdote au passage. Il était très bon en français, en philosophie, en littérature, en histoire, ça va de soi. il détestait les mathématiques. Et le lendemain de sa réussite au baccalauréat, qui était à l'époque en deux parties, il a dit à ses camarades, il est allé à Montgazon, il a dit à ses camarades, essayez d'occuper mes professeurs. Et pendant que ceux-ci avaient le dos tourné, il a solennellement brûlé ses livres de mathématiques dans la cour du collège. Bon, c'était un geste peut-être un peu théâtral, mais c'était un geste très révélateur. Ceci étant, il n'est pas sûr qu'il ait été aussi mauvais. Donc, il arrive bachelier à la faculté de droit de Paris, où il s'inscrit, et la première année, il est resté totalement muet dans le fond de la salle. Personne ne l'a vu, sauf qu'à l'examen, il a aligné des notes de 19, 20, 18, une mention très bien. Et à ce moment-là, les professeurs ont dit qui est ce Jean Foyer dont nous n'avons jamais entendu parler, que l'on a convoqué. Et ensuite, il a été très connu. Il a réussi. À l'époque, la licence était en 3 ans. Bon, les 3 premières années avec mention très bien à chaque fois. Il y avait à l'époque un prix qu'on appelait le prix Goncourt de licence du meilleur étudiant. Il l'a eu, bien sûr. Il y avait des concours de fin d'année. Il a eu une série de médailles. Ensuite, il a continué et il aurait continué dans la lancée si on n'était pas à l'époque dans la période 40-44. Il a fait de la résistance un peu, il en parlait d'ailleurs très peu, très discrètement, notamment avec un de ses camarades de faculté qui était un plus âgé, qui était un avocat avec lequel il s'est fâché puis ensuite pour des raisons politiques, qui s'appelait Jean-Baptiste Biadji, qui était très Algérie française, et puis ensuite ils sont tombés plus tard dans les bras l'un de l'autre, et ce qui vous montrait que l'amitié ne se perd pas par prescription. Donc il réussissait très bien, il avait commencé une thèse, et en 1944, juste après la libération, René Capitan, qui avait rejoint le général de Gaulle assez tôt à Londres, et je crois surtout à Alger, est nommé par le général ministre de l'Éducation nationale et il ne connaissait plus personne. Alors, il est allé trouver un de ses collègues, Gabriel Lebras, qui était un des maîtres de mon frère Jean, grand canoniste, grand spécialiste d'histoire du droit, et il lui a dit « Je cherche un jeune attaché de cabinet qui pourrait me rendre des services » et Lebras a tout naturellement dit, mais écoutez, celui que je considère comme le meilleur, c'est Jean Foyer. Il s'est donc retrouvé attaché de cabinet à l'âge de 23 ans. C'était en 1944, ce qui est jeune. Et il a parfaitement réussi. Il, d'ailleurs, s'est noué avec René Capitan une amitié qui ne s'est pas démentie, puisqu'ils se sont succédés l'un l'autre au ministère de la Justice, à la présidence de la Commission des lois, et ils ont toujours une très grande amitié. Mon frère Jean disait que Capitan était un homme coléreux et qu'il avait essuyé quelques colères, mais qui n'ont pas non plus atteint leur profonde entente et puis leur profonde vénération au général de Gaulle. Voilà, donc on est finalement, dans les années 46-47, pour des raisons que j'ignore, il a arrêté la voie de l'agrégation, pour laquelle il était normalement fait. Il a arrêté et il est devenu avocat. Il est devenu avocat spécialiste en droit des brevets, ce qu'il a continué par la suite, avec un avocat tout à fait remarquable qui s'appelait Maître Valabrègue, qui venait du comtat venaissin, avec qui il s'est parfaitement entendu. Et puis, il continuait à aider ses camarades. À l'époque, l'agrégation, c'est moins marqué aujourd'hui, se faisait en équipe. On tirait 4 leçons 24 heures avant et la leçon était faite par le candidat avec son équipe en 24 heures. Et là, il s'est révélé, comme en tout autre domaine, comme exceptionnel. Il était le maître de la leçon d'agrégation, le maître de l'introduction, comme on disait, en 3 entonnoirs, avec des idées qui s'enchaînent, le maître du plan en 2 parties, 2 sous-parties, etc. Et il a comme ça aidé un certain nombre de ses amis à devenir agrégés alors que lui-même n'était pas docteur en droit. Et c'est là qu'il est tombé sur un autre de ses mêmes amis, très fidèle, hélas disparu depuis, qui était Gérard Cornu, qui avait été reçu premier au concours de 53 et qui lui a dit « c'est pas possible que tu continues comme ça, tu vas écrire ta thèse ». Et c'est beau l'amitié et la fidélité dont je parlais parce que mon frère habitait à l'époque un petit appartement rue Rousselet, à côté de la rue Vanneau, à côté de la rue Oudinot. Et Gérard Cornu, qui avait déjà 2 enfants, ensuite il a dû en avoir 6 ou 7, enfin en tout, est venu s'installer devant lui en disant « tu vas écrire ». Et quand mon frère relevait la tête, il a écrit. Et il a donc composé sa thèse pratiquement en 1 mois et demi, 2 mois. presque de mémoire. Il y a relativement peu de références, ça veut dire qu'il y avait beaucoup réfléchi, mais c'est une thèse tout à fait extraordinaire, hein, qui marque encore. Elle est peu connue parce qu'elle est restée à l'état de manuscrit avec des pelures comme on en faisait à l'époque. Elle n'est peut-être pas toujours en bon état, mais j'en ai encore au moins un exemplaire personnel. Donc il a été docteur et Capitan était dans son jury, avec d'autres, Robert Lebal, qui avait été aussi un grand résistant. Et il a été nommé chargé de cours à la faculté de droit de Poitiers, où il a eu comme étudiante Marie-France Garraud, qui écrit d'ailleurs un bel article dans In Memoriam. Et puis, il a été reçu au concours de 55. On attendait qu'il soit premier ou qu'il fût premier. Il, si j'ose dire, n'a été que troisième. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. Le retour du général de Gaulle. Et puis ensuite, tout ça est fort connu, il y a eu l'enchaînement. Michel Debré l'a fait nommer secrétaire d'État à la communauté, puis il a été ministre de la Coopération. Puis enfin, la grande époque de sa vie, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de 1962 à 1967. Bon, la période, donc, 60-62, il a été donc secrétaire d'État d'abord à la Coopération et ensuite ministre de la Communauté franco-africaine. Ses souvenirs, il en parlait relativement peu, sauf qu'il reconnaissait qu'il avait passé des heures très difficiles en négociant avec tout le personnel politique qui était souvent de très bonne qualité de ces États africains. Le moment le plus crucial au sens propre du terme, ça a été la manière dont il a sauvé la tête du général Jouhaud que le général de Gaulle voulait faire exécuter. Ça, c'était, je trouve, une des grandes actions de son existence, parce qu'il s'est opposé au général de Gaulle, ce qui n'était pas facile. Il ne l'a pas fait de front, mais il l'a fait fort habilement. Et remarquablement, le général de Gaulle ne lui en a pas voulu. Après sa carrière comme ministre, il a été très déçu de ne pas être ministre. Il n'en a pas voulu au général, mais il n'a pas très bien compris son éviction, car il avait le sentiment qu'il n'avait pas démérité, loin de là. En revanche, il a trouvé beaucoup de plaisir en tant que président de la commission des lois. Et c'est d'ailleurs très bien dit par Pierre Mazeaud dans le In Memoriam, et puis il me l'a dit souvent, la commission des lois a fait un énorme travail, et a fait un énorme travail dans une ambiance extrêmement sympathique. Ce qui est très remarquable, c'est que mon frère Jean s'est parfaitement entendu, non seulement avec ses collègues de la majorité, ce qui allait de soi, mais aussi avec ceux de l'opposition. Qu'il s'agisse de socialistes, j'ai lu dans l'In Memoriam qu'il avait été très ami avec Forni qui lui a succédé, avec des députés communistes, et notamment, enfin ça nous mènera sur une autre voie, un député qui s'appelait Waldeck Huillier, qui avait dû être enfant de cœur et qui avait bien appris le chant grégorien. Eh bien, à la fin des séances, il disait « on a bien travaillé, on va chanter l'office du jour ». Waldeck, j'ai amené un antiphonaire, si vous voulez bien, on va chanter ensemble. Et Waldeck Huillier tenait sa partie parfaitement bien. Donc l'ambiance était très remarquable. Son amour de la musique était très important. Je l'ai dit, il aimait chanter, il aimait écouter de la musique, il aimait écouter des disques puis des CD, très très régulièrement. Cet amour de la musique donc, avait commencé très tôt, au fond, lors de ses études au Collège Montgazon dont j'ai parlé. C'est là qu'il a appris toutes les bases du chant grégorien, qu'il a possédé ensuite remarquablement. Et il était, je crois, un des meilleurs grégorianistes de France, au point que, si je ne me trompe, à un moment donné, le conservatoire de musique a dû créer une chaire de grégorien et il avait été fait partie du jury de sélection des candidats à cette chaire de grégorien. Donc, ce qui veut dire que sa compétence en ce domaine était indiscutée. Donc, il aimait beaucoup passionnément le grégorien. Il le chantait à temps et, si j'ose dire, à contre-temps. Ça revenait naturellement, ce qui faisait partie de sa vie, finalement presque de sa respiration. Il le chantait en recto tono, il avait une belle voix de baryton. C'était toujours un plaisir de l'entendre.
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, arte clamamus exules filii. arte suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle.
Ses convictions morales et religieuses étaient certaines importantes, encore qu'il était très discret sur celles-ci. Il n'en parlait pas. Alors, ses convictions, elles transparaissaient partout, son comportement, partout ses engagements, c'est évident. Alors, ses convictions morales et religieuses, il les avait héritées de sa famille. Sa famille, la mienne, ce sont l'alliance de deux vieilles familles profondément catholiques de l'Ouest, notamment du côté paternel, parce que bon, il y a eu son grand-oncle qui l'a d'ailleurs baptisé, était curé d'une grosse paroisse qui est toujours en Maine-et-Loire, qui s'appelle Chalin-la-Poterie. Un oncle, enfin ou un grand-oncle, avait été évêque de Tulle en Corrèze, et puis surtout la gloire de la famille. Son arrière-arrière-grand-oncle, qui s'appelait Guillaume Répin, a été guillotiné en 1794, si je ne me trompe, et il a été béatifié avec les 99 martyrs de l'Anjou par Jean-Paul II. Et comme il était le plus âgé, parce que je crois qu'il était né en 1709 et qu'il a été guillotiné en 1794, donc c'était quand même d'un certain âge, il est le premier de la liste. La famille avait une petite vanité, c'était Guillaume Répin et ses compagnons martyrs. Et là, alors, donc, il était profondément catholique, mais en même temps parfaitement tolérant à l'égard des autres religions. La preuve en est, mais ça a été cité souvent, c'est que lorsqu'il s'est agi de réformer le droit de la famille, il s'est adressé au doyen Jean Carbonnier, qui était, lui, un protestant de stricte obédience, un calviniste très convaincu. Donc, il n'y avait aucun sectarisme dans cette pensée profonde qui est très nette. Alors, ses convictions ont quand même transparu par un certain nombre d'actes importants de son existence. Bien sûr, l'affaire Jouot, également l'affaire Bastien-Thiry, où il a essayé d'obtenir la grâce du général, mais celui-ci lui a répondu que si Bastien-Thiry avait essayé de tuer le général de Gaulle, il l'aurait gracié, mais il avait essayé de tuer le président de la République, et ça, il ne pouvait pas l'admettre. Bon, c'est la rigueur du général. Mais il a essayé. Et puis, mais je ne m'y attarderai pas, lorsqu'il s'est exprimé à propos de la loi sur l'IVG, il a manifesté ses opinions très fortement. Je crois d'ailleurs qu'ensuite, ses relations avec Madame Veil ont continué à être parfaitement courtoises. Et la preuve en est, il le dit aussi dans ses mémoires. Un peu plus tard, la question s'est posée de savoir si on allait créer une sécurité sociale particulière pour les moines. Et là, non seulement il a défendu la thèse de cette sécurité sociale, mais il a obtenu de Madame Veil que celle-ci défende sa propre thèse, ce qui d'ailleurs, au passage, démontre aussi la grande objectivité de Madame Veil, qui était ministre de la Santé à l'époque. Donc, ce sont, si vous voulez, des faits émergents. Le reste du temps, bien sûr, il allait toujours à la messe, bien sûr. Quand il le pouvait, surtout à la campagne, il participait aux cérémonies et il disait, de même qu'on parle qu'il y a des enfants de cœur, je me considère comme un vieillard de cœur, la marque de son esprit. Je me souviens que lors de la remise de ses premiers mélanges, je lui avais dit devant tout le monde qu'il avait une tête d'empereur romain. Et Raymond Triboulet, qui était membre de l'Institut, avait dit « c'est un peu exagéré, il a une tête de sénateur romain bon, ». Ce qui était une nuance qui ne rabaissait pas son physique, mais il était romain, si j'ose dire, dans l'âme. Romain, et puis ensuite catholique romain, ça va de soi. Ceci étant, il avait eu une admiration profonde pour Bossuet, à la fois pour l'esprit de Bossuet, pour la langue de Bossuet, et il connaissait par cœur, je crois, la quasi-totalité des oraisons funèbres, surtout l'oraison funèbre du prince de Condé. Moi, j'ai dû l'entendre dire par lui une vingtaine de fois. Enfin, c'est là que je vous verrai plus triomphant qu'à Fribourg et à Rocroi, etc. Restait la redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, etc. Le général comte de Fontaine montrant qu'un cœur peut animer le cœur qui est le général comte de Fontaine était perclus, je crois, de rhumatisme et il commandait dans son fauteuil. Et avec mon frère Jean, nous avons visité un jour le musée de l'armée et il a été stupéfait et en même temps ravi de voir que le musée des Invalides contient dans une vitrine le fauteuil du général de Fontaine que l'on a repris comme prise de guerre après la bataille de Rocroi. Alors, ce que l'on peut dire pour terminer, donc, quand je disais qu'il avait eu des jeunesses successives, c'est vrai, et au fond, sa dernière jeunesse, une fois qu'il a quitté la vie politique, bon gré mal gré, au début de l'année 2000, il s'est retrouvé à l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été, je crois pouvoir le dire, extrêmement heureux. Il a été très heureux, il était dans une communauté de pensée, communauté intellectuelle, et je crois qu'il a exercé une grande influence sur l'Académie. Et c'est à ce titre qu'à ma connaissance, il a été le premier à proposer l'élection du cardinal Ratzinger comme membre associé de l'Académie. Et il a été fort heureusement suivi par l'Académie des sciences morales, par l'Institut des sciences morales et politiques, et en conséquence, il a été amené à le recevoir le 6 novembre 1992. Et d'ailleurs, l'Académie garde le texte de son discours qu'il avait prononcé après l'allocution de M. Paulin, qui devait être président de l'Académie à l'époque. Il a fait un très beau discours, et un discours alors qui est, je trouve, tout à fait remarquable, parce que c'est un discours qui démontre des connaissances de théologie que je ne lui connaissais pas bien, mais qui montrait alors toute la vastitude de son intelligence. Il était capable d'embrasser presque tous les domaines de la pensée, en tout cas religieuse, littéraire et peut-être pas scientifique et encore, mais c'était remarquable. Il y a eu avec mon frère beaucoup de moments heureux, aussi des moments malheureux, bien sûr. Mais dans les moments heureux, il y en a eu beaucoup. J'ai souvenir, d'abord, lorsque j'ai été moi-même agrégé, c'était en 1965, c'est vieux déjà, et il était à l'époque garde des Sceaux, et il m'a immédiatement invité à déjeuner. Je suis allé lui rendre visite au ministère de la Justice, et il était aussi heureux que moi. Ce qui n'est pas peu dire, d'autant plus que nous avions été agrégés l'un et l'autre à la même place, qui était la troisième place, qui est une bonne place. En termes de Jeux Olympiques, c'est la médaille de bronze, ce qui n'est pas mal. Après tout, je m'en suis fort bien contenté. Et là, c'était vraiment très agréable. Et puis, il y a eu les grands moments. Par exemple, la remise de son épée à l'Hôtel de Ville, où il avait fait un très beau discours. Et là aussi, un discours d'amis très proche et très sincère. Et puis, au fond, il y avait, dans ces moments heureux, tous ceux qu'il passait à continuer dans la maison de famille. Et je dois dire que ce qui est à la fois le plus heureux et le plus malheureux a été l'été 2008. Car l'été 2008, je ne pouvais pas penser qu'il allait disparaître comme ça aussi rapidement, puisqu'il est mort, nous sommes le 6 octobre, il est mort le 3 octobre 2008, ça fait donc 2 ans quasiment jour pour jour. Mais nous avons passé un mois dans une entente profonde. Il s'était aménagé une petite maison avec sa femme, qui était d'ailleurs pas en très bonne forme. Et nous avons passé alors des soirées tout à fait délicieuses en parlant de tout et de rien. Je lui avais procuré notamment le livre de souvenirs d'un de ses camarades d'enfance, qui vit toujours, qui s'appelle Roland de la Poix, et qui était un des derniers anciens de Normandie-Niémen, et qui était originaire d'un petit village qui est à 8 km, s'appelle Champigné. Alors il avait lu ce livre avec passion. Et il en reparlait, c'est sans doute un des derniers livres, c'est un livre très facile à lire, dont on a discuté très longuement ensemble. C'était des moments délicieux et j'espérais que ça durerait plus longtemps. Ce que je voudrais peut-être ajouter, j'ai retrouvé une citation que cite Mauriac dans les bloc-notes, qui est une réflexion caustique du cardinal de Retz. Et il disait, je cite parce que c'est lui le contraire, il disait « Tout homme que la fortune seule a fait homme public devient presque toujours, avec un peu de temps, un particulier ridicule. On ne revient plus de cet état. » Je pense que si le cardinal de Retz avait connu mon frère Jean, il se serait aperçu que cette phrase est parfaitement stupide et inexacte. Mon frère n'a jamais été ridicule et il s'est parfaitement remis de la fin de sa carrière d'homme public. Au fond, il l'aimait. J'ai dit que c'était la fidélité, que c'était sa marque particulière. Mais c'était aussi la simplicité, l'accessibilité, l'accueil aux autres. Et Marie-France Garraud dit très bien que ce qui frappait chez lui, c'était son sourire. Et il avait un sourire à laquelle il accueillait les gens. Très bien, il les comprenait très vite, son intelligence fonctionnait très bien, mais il était aimable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois agréable et un homme que l'on pouvait aimer, et je crois qu'il a été aimé.
Pour mieux connaître Jean Foyer, on peut lire son livre de mémoire qui s'intitule « Sur les chemins du droit avec le général » qui est paru chez Fayard. C'est un livre qu'il avait lui-même présenté au micro de Canal Academy, donc dans une émission que vous pouvez retrouver. On peut lire aussi l'ouvrage collectif auquel M. Foyer a fait allusion plusieurs fois, « In Memoriam Jean Foyer » qui est paru aux éditions Litech en 2010. Canal Academy propose plusieurs émissions avec Jean Foyer, plusieurs notamment où on l'entend chanter du grégorien, il ne faut pas manquer ce grand moment. Et puis il y a aussi l'autre volume de Mélange, Jean Foyer auteur et législateur qui est paru en 1997, et je me souviens avoir fait aussi une émission avec Monsieur Foyer où je l'avais fait parler de son maître Gabriel Le Bras. Donc nous avons aussi sur Gabriel Le Bras une émission avec Jean Foyer. Merci de votre écoute et merci Monsieur Foyer d'être venu au micro de Canal Academy.
C'est moi qui vous remercie.
Christ.